La capsule.
Allô.
Le coup de fil à un ami.
Allô.
Au signal, veuillez dicter votre message.
J'ai entendu dire que les Chinois comptaient aller sur la Lune bientôt. C'est quoi cette histoire?
Au CNES, celui qui sait, c'est Richard Bonneville, directeur adjoint des programmes.
Allô.
Allô, Richard.
Oui.
Est-ce que tu peux m'expliquer la raison qui pousse les Chinois à vouloir aller sur la Lune?
Eh bien... Le spatial, c'est au carrefour d'un certain nombre d'enjeux scientifiques, techniques, etc. C'est aussi des enjeux, je dirais, un peu politiques, c'est-à-dire, pour certains pays émergents, c'est un enjeu de souveraineté, et c'est un moyen d'affirmer sa maturité technologique. Et je crois que pour les Chinois, il s'agit d'affirmer leur maturité technologique face aux autres puissances spatiales déjà affirmées, comme les Russes ou les Américains.
Mais quel est l'intérêt d'aller sur la Lune encore aujourd'hui?
Alors, la Lune a un intérêt dans la mesure où on pense que c'est en quelque sorte un morceau de la Terre primitive. On parle de la théorie de l'impact géant de la Terre par un gros corps céleste qui aurait engendré la Lune. Et puis, elle a également un intérêt dans la mesure où, si Mars est l'objectif final de l'exploration, avec l'idée de poser peut-être un homme sur Mars dans les années, 2030, 2040, 2050, la Lune est intéressante parce qu'elle permet d'apprendre certaines des technologies qui seront utiles pour poser un homme sur Mars.
Quels sont les satellites qui observent la Lune actuellement?
Alors, il y a eu, il y a quelques années, effectivement, un regain d'intérêt pour la Lune. Il y a eu plusieurs missions. Il y a eu, par exemple, la mission européenne Smart One, dont le principal objectif, en fait, était de tester la propulsion électrique. Il y a eu des missions, une mission indienne qui a cartographié la Lune. Il y a eu les missions chinoises Chang'e 1 et 2. Actuellement, depuis quelques semaines, il y a le couple de satellites américains GRAIL A et B, dont l'objectif est de cartographier avec une très grande précision le champ de pesanteur de la Lune et de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des irrégularités dans ce champ de pesanteur, quelles sont les inhomogénéités du sol lunaire qui expliquent ces anomalies de gravité de la Lune.
Et est-ce que l'Europe s'intéresse à la Lune?
La Lune n'est pas aujourd'hui un objectif européen majeur. Cependant, toujours dans la perspective de futures missions habitées vers Mars et donc préparation via la Lune, il y a un projet de démonstration d'atterrisseur lunaire qui est poussé par nos collègues allemands du DLR, qui pourrait être décidé à la conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne en novembre prochain. Donc c'est une expérience essentiellement technologique, qui est destinée à montrer la possibilité, la capacité des Européens à se poser sans dommages et de façon très précise.
Merci, Richard Bonneville.
Ah, merci, c'est beaucoup plus clair comme ça.
Dans tous les sens.
Dans tous les sens.
Poudre. 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 Lorsque la fusée Ariane décolle, 90% de l'effort est fourni par ses deux accélérateurs à poudre. Mais en fait de poudre, ces accélérateurs contiennent chacun 240 tonnes d'une substance qui n'est pas sans rappeler la gomme. Cette poudre à la gomme serait-elle de perlimpinpin? Non, rassurez-vous, il y a bien de la poudre dans les accélérateurs à poudre. De la poudre d'aluminium, très exactement. Mais il n'y a pas que ça. Pour brûler et produire une poussée, la poudre d'aluminium, qui est le carburant, a besoin d'un comburant, un peu comme la cire d'une bougie a besoin de l'oxygène de l'air pour brûler. Pour la poudre d'aluminium, le comburant est le perchlorate d'ammonium. Les accélérateurs d'Ariane sont donc remplis d'un propergol, mélange intime de carburant et de comburant. Le tout est mélangé dans une sorte de résine qui stabilise l'ensemble et lui donne son aspect caoutchouteux. Les accélérateurs d'Ariane sont donc remplis d'un propergol, mélange intime de carburant et de comburant. Le tout est mélangé dans une sorte de résine qui stabilise l'ensemble et lui donne son aspect caoutchouteux. Le grand intérêt des accélérateurs à poudre, c'est qu'ils délivrent une forte poussée, très utile pour arracher Ariane du sol. Mais ils ont aussi un petit inconvénient. Lorsqu'ils sont allumés, il est impossible de les éteindre. Ils ne s'arrêtent qu'une fois vides. C'est pourquoi, lors d'un décollage, avant de mettre le feu aux poudres, on s'assure toujours que le moteur principal d'Ariane fonctionne normalement et qu'il pourra prendre le relais une fois les accélérateurs vides. Vérifier qu'on a assez de munitions avant de faire parler la poudre, c'est une sagesse élémentaire.
Mais qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
L'Adère d'Éder. Connaissez-vous l'œuvre monumentale d'Albert Herter qui orne le hall de la gare de l'Est ? Le peintre y a représenté le départ des futurs poilus en août 1914. Quel contraste entre l'enthousiasme de ces jeunes mobilisés, leur assurance de battre l'ennemi en un clin d'œil et l'effroyable boucherie qui les attend. 4 ans plus tard, ceux qui en auront réchappé affirmeront, à l'unisson des hommes politiques et avec la même conviction que celle du premier jour, cette guerre sera la der des der. Nous le savons, l'histoire n'a pas eu davantage de pitié pour les élans de 1914 que pour les promesses de 1918. Le sera-t-elle avec les souhaits et les espoirs que nous aimons formuler à l'aube d'une nouvelle année ? J'en doute. Certes, 2012 ne manquera pas de batailles à engager, ni de convictions à défendre, dont chacun espère être le vainqueur ou le héros. Mais qui d'entre nous croit encore à l'avènement de lendemains définitivement enchanteurs, à l'instauration d'un éternel jardin d'Éden ? Cette année pourtant, se fait entendre, plus que de coutume, un son de cloche ou plutôt de trompette un peu différent. Celui adopté par les prophètes de malheur, ceux qui n'hésitent pas à déclarer que 2012 sera bel et bien la der des der, la fin, sinon du monde, du moins de notre monde terrestre. La manœuvre est adroitement menée depuis plusieurs années déjà, et l'intérêt a été providentiellement entretenu par une production cinématographique. Il n'empêche, comment ne pas s'étonner du succès d'une telle peur ? Plus précisément, du plaisir que nous, les humains, éprouvons à nous faire peur. La recette ne manque pas d'efficacité. Le terme d'un calendrier d'une civilisation maya aujourd'hui disparue est donc fascinante. Une mystérieuse planète, dont le nom Nibiru plonge ses racines dans le terroir plus ancien encore de la Mésopotamie, des caprices solaires annoncés, l'alignement de 3 planètes, rien ne valent les ingrédients cosmiques pour donner à un brouet prophétique le fumet et les attraits d'un mets scientifique pour mieux attirer et séduire les amateurs de frayeurs à bon marché ou, plus tragiquement, les consommateurs non avertis. Si l'histoire n'était faite que de répétitions, ces mystifications ne mériteraient pas plus d'intérêt que celui porté aux multiples avatars de comportements humains sans doute inévitables mais aisément démontés. Cette fois, l'affaire mérite une plus grande attention, afin d'éviter le piège dénoncé par la sagesse populaire « l'arbre ne doit pas cacher la forêt ». Autrement dit, notre Terre, notre humanité sont aujourd'hui moins menacées par des événements d'origine cosmique que par des dérèglements climatiques et géophysiques, sociaux et économiques, tous bel et bien d'origine terrestre. Mais nous préférons agiter l'apocalypse de 2012 à la sauce maya ou mésopotamienne plutôt que de prendre au sérieux les menaces repérées et explicitées par les scientifiques et les experts depuis plusieurs décennies. L'être humain est donc un bien étrange animal qui paraît aimer se faire peur, du moins tant que sa responsabilité n'est pas engagée et qu'il peut se plaindre ou s'en remettre à de mystérieuses forces et conjonctures célestes. quelles que soient les convictions religieuses de chacun d'entre nous, il serait préférable de n'attendre du ciel que l'aide de nos satellites et d'entamer nous-mêmes, avant qu'elle ne nous soit imposée, d'indispensables métamorphoses, sous peine de se retrouver bien vite les dères des dères.
Alors, allons-y.
Allons-y. La capsule a été imaginée par Daniel Fievé, Didier Jamais et Séverine Klein. Écrite par...
Essentiellement Didier Jamais.
Et c'est qui a écrit le titre?
C'est quand même le plus important.
Il n'y a pas que toi, il y a Jacques Arnoux.
Oui, bien moi aussi. Mais on ne peut pas mettre ma chronique et celle de Jacques au même niveau.
Non, tu as raison. Et d'ailleurs, ta chronique ne serait rien sans ma voix.
Et moi, je suis l'auteur du titre. Et qui c'est qui va aller sur le terrain?
C'est Daniel qui a raison. Le talent, la création, c'est nous.
Oui, mais le montage, l'habillage, c'est
non, mais bon.
Bon, les rois de la créa, là en bas.
Oui.
Roger.
Votre temps de parole est écoulé pour aujourd'hui. Il serait peut-être temps de rentrer chez vous.
On redémarre ? C'est qui a les clés ?
Allez, à la prochaine.